Troisième partie, chapitre 11. Le valet de pied rentra avec la carte de la comtesse Molé, ou plutôt avec ce qu'elle avait laissé comme carte. Alléguant qu'elle n'en avait pas sur elle, elle avait tiré de sa poche une lettre qu'elle avait reçue et, gardant le contenu, avait corné l'enveloppe qui portait le nom « La comtesse Molé ». Comme l'enveloppe était assez grande, selon le format du papier à lettres qui était à la mode cette année-là, cette carte, écrite à la main, se trouvait avoir presque deux fois la dimension d'une carte de visite ordinaire. « C'est ce qu'on appelle la simplicité de Madame Molé ?» dit la duchesse avec ironie. « Elle veut nous faire croire qu'elle n'avait pas de carte et montrer son originalité. Mais nous connaissons tout ça, n'est-ce pas, mon petit Charles ? Nous sommes un peu trop vieux et assez originaux nous-mêmes pour apprendre l'esprit d'une petite dame qui sort depuis 4 ans. Elle est charmante, mais elle ne me semble pas avoir tout de même un volume suffisant pour s'imaginer qu'elle peut étonner le monde à si peu de frais que de laisser une enveloppe comme carte et de la laisser à 10 heures du matin. Sa vieille mère sourit lui montrera qu'elle en sait autant qu'elle sur ce chapitre-là. » Swann ne put s'empêcher de rire en pensant que la duchesse, qui était du reste un peu jalouse du succès de Madame Molé, trouverait bien dans l'esprit des Guermantes quelques réponses impertinentes à l'égard de la visiteuse. « Pour ce qui est du titre de duc de Brabant, je vous ai dit 100 fois, Oriane, » reprit le duc, à qui la duchesse coupa la parole sans écouter. « Mais mon petit Charles, je m'ennuie après votre photographie. Ah, extinctor draconis labrator anubis !» dit Swann. Oui, c'est si joli ce que vous m'avez dit là-dessus en comparaison du Saint-Georges de Venise. Mais je ne comprends pas pourquoi Anubis. Comment est celui qui est ancêtre de Babal ? Demanda monsieur de Guermantes. Vous voudriez voir sa Babal ? Dit madame de Guermantes d'un air sec pour montrer qu'elle méprisait elle-même ce calembour. Je voudrais les voir tous, ajouta-t-elle. « Écoutez, Charles, descendons en attendant que la voiture soit avancée, » dit le duc. « Vous nous ferez votre visite dans le vestibule, parce que ma femme ne nous fichera pas la paix tant qu'elle n'aura pas vu votre photographie. Je suis moins impatient, à vrai dire, » ajouta-t-il d'un air de satisfaction. « Je suis un homme calme, moi, mais elle nous ferait plutôt mourir. » « Je suis tout à fait de votre avis, Bazin, » dit la duchesse. « Allons dans le vestibule. Nous savons au moins pourquoi nous descendons de votre cabinet, tandis que nous ne saurons jamais pourquoi nous descendons des comtes de Brabant. » « Je vous ai répété 100 fois comment le titre était entré dans la maison de S, » dit le duc. Pendant que nous allions voir la photographie et que je pensais à celle que Swann me rapportait à Combray. « Par le mariage d'un Brabant en 1241, » avec la fille du dernier landgrave de Thuringe et de Hesse, de sorte que c'est même plutôt ce titre de prince de Hesse qui est entré dans la maison de Brabant que celui de duc de Brabant dans la maison de Hesse. Vous vous rappelez, du reste, que notre cri de guerre était celui des ducs de Brabant, Limbourg à qui l'a conquis, jusqu'à ce que nous ayons échangé les armes des Brabants contre celles des Guermantes. En quoi je trouve du reste que nous avons eu tort, et l'exemple des Gramont n'est pas pour me faire changer d'avis. Mais, répondit madame de Guermantes, comme c'est le roi des Belges qui l'a conquis. Du reste, l'héritier de Belgique s'appelle le duc de Brabant. Mais mon petit, ce que vous dites ne tient pas debout et pêche par la base. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a des titres de prétention qui subsistent parfaitement si le territoire est occupé par un usurpateur. Par exemple, le roi d'Espagne se qualifie précisément de duc de Brabant, invoquant par là une possession moins ancienne que la nôtre, mais plus ancienne que celle du roi des Belges. Il se dit aussi duc de Bourgogne, roi des Indes occidentales et orientales, duc de Milan. Or, il ne possède pas plus la Bourgogne, les Indes, ni le Brabant, que je ne possède moi-même ce dernier, ni que ne le possède le prince de Hesse. Le roi d'Espagne ne se proclame pas moins roi de Jérusalem, l'empereur d'Autriche également, et il ne possède Jérusalem ni l'un ni l'autre. » Il s'arrêta un instant, gêné que le nom de Jérusalem ait pu embarrasser Swann à cause des affaires en cours, mais n'en continua que plus vite. « Ce que vous dites là, vous pouvez le dire de tout. Nous avons été duc d'Aumale, duché qui a passé aussi régulièrement dans la maison de France que Joinville et que Chevreuse dans la maison d'Albert. Nous n'élevons pas plus de revendications sur ces titres que sur celui de marquis de Noirmoutier, qui fut nôtre et qui devint fort régulièrement l'apanage de la maison de la Trémoille. Mais de ce que certaines cessions sont valables, il ne s'ensuit pas qu'elles le soient toutes. Par exemple, dit-il en se tournant vers moi, le fils de ma belle-sœur porte le titre de prince d'Agrigente, qui nous vient de Jeanne la Folle, comme au La Trémoille, celui de prince de Tarente. Or, Napoléon a donné ce titre de Tarente à un soldat, qui pouvait d'ailleurs être un fort bon troupier, mais en cela, l'empereur a disposé de ce qui lui appartenait encore moins que Napoléon III en faisant un duc de Montmorency, puisque Périgord avait au moins pour mère une Montmorency, tandis que le Tarente de Napoléon Ier n'avait de Tarente que la volonté de Napoléon qu'il le fût. Cela n'a pas empêché chez d'Estanges, faisant allusion à notre oncle Condé, de demander au procureur impérial s'il avait été ramassé le titre de duc de Montmorency dans les fossés de Vincennes. « Écoutez, Bazin, je ne demande pas mieux que de vous suivre dans les fossés de Vincennes, et même à Tarente. Et à ce propos, mon petit Charles, c'est justement ce que je voulais vous dire pendant que vous me parliez de votre Saint-Georges de Venise. C'est que nous avons l'intention, Bazin et moi, de passer le printemps prochain en Italie et en Sicile. Si vous veniez avec nous, pensez ce que ce serait différent. Je ne parle pas seulement de la joie de vous voir, mais imaginez-vous, avec tout ce que vous m'avez souvent raconté sur les souvenirs de la conquête normande et les souvenirs antiques, imaginez-vous ce qu'un voyage comme ça deviendrait fait avec vous. C'est-à-dire que même Bazin, que dis-je, Gilbert en profiterait, parce que je sens que, jusqu'aux prétentions à la couronne de Naples et toutes ces machines-là, m'intéresseraient si c'était expliqué par vous dans de vieilles églises romanes ou dans des petits villages perchés comme les tableaux des primitifs. Mais nous allons regarder votre photographie. Défaites l'enveloppe, dit la duchesse à un valet de pied. « Mais Oriane, pas ce soir, vous regarderez cela demain !» implora le duc, qui m'avait déjà adressé des signes d'épouvante en voyant l'immensité de la photographie. « Mais ça m'amuse de voir cela avec Charles !» dit la duchesse avec un sourire à la fois factissement concupiscent et finement psychologique, car, dans son désir d'être aimable pour Swann, elle parlait du désir qu'elle aurait à regarder cette photographie, comme de celui qu'un malade sent qu'il aurait à manger une orange, ou comme si elle avait à la fois combiné une escapade avec des amis et renseigné un biographe sur des goûts flatteurs pour elle. « Eh bien, il viendra vous voir exprès !» déclara le duc, à qui sa femme dut céder. « Vous passerez 3 heures ensemble devant, si ça vous amuse !» dit-il ironiquement. « Mais où allez-vous mettre un joujou de cette dimension-là »« Mais dans ma chambre, je veux la voir sous les yeux. »« Ah, tant que vous voudrez, si elle est dans votre chambre, j'ai chance de ne la voir jamais, » dit le duc, sans penser à la révélation qu'il faisait aussi étourdiment sur le caractère négatif de ses rapports conjugaux. « Eh bien, vous déferez cela bien soigneusement, » ordonna madame de Guermantes au domestique. elle multipliait les recommandations par amabilité pour Swann. « Vous n'abîmerez pas non plus l'enveloppe. »
« Il faut même que nous respections l'enveloppe, » me dit le duc à l'oreille en levant les bras au ciel.
« Mais, Swann, » ajouta-t-il, « moi qui ne suis qu'un pauvre mari bien prosaïque, ce que j'admire là-dedans, c'est que vous ayez pu trouver une enveloppe d'une dimension pareille. Où avez-vous déniché cela ?»«
C'est la maison de photogravure qui fait souvent ce genre d'expédition. » Mais c'est un mufle, car je vois qu'il a écrit dessus « La duchesse de Guermantes, sans madame ».
« Je lui pardonne, » dit distraitement la duchesse, qui, tout d'un coup, paraissant frappée d'une idée qui l'égaya, réprima un léger sourire, mais, revenant vite à Swann, « Eh bien, vous ne dites pas si vous viendrez en Italie avec nous ?»«
Madame, je crois bien que ce ne sera pas possible. »
« Eh bien, madame de Montmorency a plus de chance. Vous avez été avec elle à Venise et à Vicente. Elle m'a dit qu'avec vous, on voyait des choses qu'on ne verrait jamais sans ça, dont personne n'a jamais parlé, que vous lui avez montré des choses inouïes, et même, dans les choses connues, qu'elle a pu comprendre des détails, devant qui, sans vous, elle aurait passé 20 fois sans jamais les remarquer. Décidément, elle a été plus favorisée que nous.
Vous prendrez l'immense enveloppe des photographies de M. Swann, dit-elle au domestique, et vous irez la déposer, cornée de ma part, ce soir, à 10h30, chez Mme la comtesse Molé.
Swann éclata de rire.
Je voudrais tout de même savoir, lui demanda Mme de Guermantes, comment, 10 mois d'avance, vous pouvez savoir que ce sera impossible.
Ma chère duchesse, « je vous le dirai si vous y tenez, mais d'abord, vous voyez que je suis très souffrant. »«
Oui, mon petit Charles, je trouve que vous n'avez pas bonne mine du tout. Je ne suis pas contente de votre teint. Mais je ne vous demande pas cela pour dans 8 jours, je vous demande cela pour dans 10 mois. »« En 10 mois, on a le temps de se soigner, vous savez. »
À ce moment, un valet de pied vint annoncer que la voiture était avancée.
« Allons, Oriane, à cheval !»
dit le duc, qui piaffait déjà d'impatience depuis un moment, comme s'il avait été lui-même un des chevaux qui attendait.
« Eh bien, en un mot, la raison qui vous empêchera de venir en Italie ?»
questionna la duchesse en se levant pour prendre congé de nous.
« Mais, ma chère amie, c'est que je serai mort depuis plusieurs mois. D'après les médecins que j'ai consultés, à la fin de l'année, le mal que j'ai, et qui peut du reste m'emporter de suite, ne me laissera pas en tous les cas plus de 3 ou 4 mois à vivre. Et encore, c'est un grand maximum, » répondit Swann en souriant, tandis que le valet de pied ouvrait la porte vitrée du vestibule pour laisser passer la duchesse.
« Qu'est-ce que vous me dites là ? » s'écria la duchesse en s'arrêtant une seconde dans sa marche vers la voiture, et en levant ses beaux yeux bleus et mélancoliques, mais pleins d'incertitude. Placée pour la première fois de sa vie entre 2 devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir, elle ne voyait rien dans le code des convenances qui lui indiqua la jurisprudence à suivre. Et, ne sachant auquel donner la préférence, elle crut devoir faire semblant de ne pas croire que la seconde alternative eût à se poser, de façon à obéir à la première qui demandait en ce moment moins d'efforts, et pensa que la meilleure manière de résoudre le conflit était de le nier.
« Vous voulez plaisanter ? » dit-elle à Swann.
« Ce serait une plaisanterie d'un goût charmant, » répondit ironiquement Swann. « Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Je ne vous avais pas parlé de ma maladie jusqu'ici. Mais comme vous me l'avez demandé, et que maintenant je peux mourir d'un jour à l'autre, mais surtout je ne veux pas que vous vous retardiez. Vous dînez en ville, » ajouta-t-il, parce qu'il savait que, pour les autres, leurs propres obligations mondaines priment la mort d'un ami, et qu'il se mettait à leur place grâce à sa politesse. mais celle de la duchesse lui permettait aussi d'apercevoir confusément que le dîner où elle allait devait moins compter pour Swann que sa propre mort. Aussi, tout en continuant son chemin vers la voiture, baissa-t-elle les épaules en disant « Ne vous occupez pas de ce dîner, il n'a aucune importance. » Mais ces mots mirent de mauvaise humeur le duc qui s'écria « Voyons, Oriane, ne restez pas à bavarder comme cela et à échanger vos jérémiades avec Swann. Vous savez bien pourtant que Madame de Sainte-Verte tient à ce qu'on se mette à table à 8 heures tapant. Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà bien 5 minutes que vos chevaux attendent. Je vous demande pardon, Charles, dit-il en se tournant vers Swann. Mais il est 8h10. Oriane est toujours en retard. Il nous faut plus de 5 minutes pour aller chez la mère Sainte-Verte. » Madame de Guermantes s'avança décidément vers la voiture et redit un dernier adieu à Swann. « Vous savez, nous reparlerons de cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble. On vous aura bêtement effrayé. Venez déjeuner, le jour que vous voudrez. » Pour Madame de Guermantes, tout se résolvait toujours en déjeuner. « Vous me direz votre jour et votre heure. » Relevant sa jupe rouge, elle posa son pied sur le marchepied. Elle allait entrer en voiture quand, voyant ce pied, le duc s'écria d'une voix terrible. « Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse? Vous avez gardé vos souliers noirs, avec une toilette rouge. Remontez vite mettre vos souliers rouges. Ou bien, dit-il au valet de pied, dites tout de suite à la femme de chambre de Madame la Duchesse de descendre des souliers rouges. « Mais, mon ami, répondit doucement la duchesse, gênée de voir que Swann, qui sortait avec moi, mais avait voulu laisser passer la voiture devant nous, avait entendu. « Puisque nous sommes en retard. » « Mais non, nous avons tout le temps, il n'est que -10. Nous ne mettrons pas 10 minutes pour aller au parc Monceau. Et puis enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il serait 8h30, ils patienteront. Vous ne pouvez pourtant pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. D'ailleurs, nous ne serons pas les derniers. Allez, il y a les sassenages. Vous savez qu'ils n'arrivent jamais avant 9h-20. » La duchesse remonta dans sa chambre. « Hein ? » nous dit Monsieur de Guermantes. « Les pauvres marches, on se moque bien d'eux. Mais ils ont du bon tout de même. Sans moi, Oriane allait dîner en souliers noirs. » « Ce n'est pas laid, dit Swann, et j'avais remarqué les souliers noirs, qui ne m'avaient nullement choqué. » « Je ne vous dis pas, répondit le duc, mais c'est plus élégant qu'ils soient de la même couleur que la robe. Et puis, soyez tranquille, elle n'aurait pas été plus tôt arrivée qu'elle s'en serait aperçue. Et c'est moi qui aurais été obligé de venir chercher les souliers. J'aurais dîné à 9h. « Adieu, mes petits-enfants, » dit-il en nous repoussant doucement. « Allez-vous-en avant qu'Oriane ne redescende. Ce n'est pas qu'elle n'aime vous voir tous les deux, au contraire, c'est qu'elle aime trop vous voir. Si elle vous trouve encore là, elle va se remettre à parler. Elle est déjà très fatiguée, elle arrivera au dîner morte. Et puis je vous avouerai franchement que moi, je meurs de faim. J'ai très mal déjeuné ce matin en descendant de train. Il y avait bien une sacrée sauce béarnaise, mais malgré cela, je ne serais pas fâchée du tout, mais du tout, de me mettre à table. 8h-5. Ah, les femmes! Elle va nous faire mal à l'estomac, à tous les deux. Elle est bien moins solide qu'on ne croit. » Le duc n'est nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens à un mourant, car les premiers, l'intéressant davantage, lui apparaissaient plus importants. Aussi, fût-ce seulement par bonne éducation et gaillardise qu'après nous avoir éconduits gentiment, il cria à la cantonade et d'une voix de stentor de la porte à Swann qui était déjà dans la cour. « Et puis, vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins, que diable, ce sont des ânes! Vous vous portez comme le pont neuf, vous nous enterrerez tous !»